Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Benjamin Laverne
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un acteur sociétaire de la comédie française dont la carrière au cinéma va prendre une nouvelle dimension mercredi prochain, jour de la sortie du film L'Abbé Pierre, une vie de combat. L'Abbé Pierre, c'est vous, Benjamin Laverne. Bonjour.
Bonjour.
On va longuement parler de ce film et de ce rôle. Mais une question d'abord, vous êtes en pleine promotion, est-ce qu'on s'adresse à vous comme si vous étiez l'abbé Pierre? Est-ce qu'on vous demande votre point de vue sur la précarité, sur les problèmes de logement, sur les problèmes de société?
Ça va, je suis un peu épargné. Mais en tout cas, il y a une affection du public là, pendant toute la tournée d'avant-première, des gens qui me prennent dans leurs bras. Donc je pense qu'il y a une petite part d'abbé Pierre en moi peut-être qui est restée. Et les gens parfois s'y méprennent parce que je fais tout pour lui ressembler.
Évidemment, donc, voilà. Évidemment, on va en reparler longuement. En tout cas, moi je vais vous demander, si vous le souhaitez, de nous donner votre avis sur l'actualité. Puisque tout de suite, c'est les informations que je vous invite à commenter avec moi, le journal.
Le journal inattendu sur RTL
avec Benjamin Laverne et Nathalie Renoux.
L'ouest de la France dans l'attente d'une nouvelle tempête. Elle s'appelle Domingos. 11 départements en vigilance orange. Toutes les précisions de Valérie Quintin dans un instant. Domingos arrive après Kira qui a fait de très gros dégâts. Les agriculteurs bretons ont beaucoup souffert. Vous entendrez un éleveur qui a presque tout perdu. 39 Français sont morts dans l'attaque du Hamas en Israël. C'est un nouveau bilan. Emmanuel Macron appelle à une trêve et organise une conférence humanitaire jeudi prochain à Paris. Et puis le sport, du football et l'entrée en lice de Clarisse Agbeniénou au championnat d'Europe de judo.
Le journal inattendu.
Benjamin Laverne, Nathalie Renoux.
Dans un instant, nous partirons en Bretagne et dans le Pas-de-Calais où les dégâts de Kiran sont très importants, vous le verrez. Mais d'abord, Valérie Quintin, on a besoin d'éclaircissements sur la météo du jour.
Bon. Ce qui est clair, c'est qu'une autre tempête, une nouvelle tempête va nous aborder. Elle ne va pas le faire tout de suite, elle va le faire en fin d'après-midi. Pour l'instant, on en a les signes avant-coureurs. Donc déjà, de fortes pluies entre le sud-ouest et le nord-est. Ça va durer une grande partie de la journée. Il y aura un gros cumul de pluie sur toutes ces régions. Mais surtout, on attend à nouveau des vents forts qui n'auront rien de comparable avec ce qu'on a vécu cette semaine. Pour autant, on a déjà relevé des rafales à 107 km/h à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique ce matin. 119 à la Pointe-du-Raz, 106 à Châteauroux dans l'Inde. Parce que les départements depuis la Loire-Atlantique jusqu'à la Gironde seront concernés par ces vents très violents qui pourront atteindre 140 km/h ce soir. Dans les terres, on aura des rafales de l'ordre de 110 à 120 km/h entre le Poitou, le Centre et le Limousin. Et partout ailleurs, au pire, des rafales à 70 km/h. Mais cette tempête va à nouveau traverser tout le pays. Et en plus, on va avoir de grosses vagues sur la côte atlantique, bien sûr, mais également en Méditerranée, notamment dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône.
On a compris que ça avait à peu près commencé, mais on a une idée du timing, de la façon dont ça va se dérouler et quand est-ce que ça va s'arrêter?
Alors, ça va commencer tout doucement, si je puis dire, à partir de 15-16 heures, 18 heures, vraiment, les choses sérieuses vont commencer. Ça va durer une grande partie de la nuit et ça va aller en s'atténuant demain matin.
Voilà pour cette tempête Domingos qui s'annonce. Merci Valérie Quintin. Alors actuellement, 260 000 foyers sont privés d'électricité en Bretagne et en Normandie. Presque 3 jours sans courant, ça commence à faire long. Et on mesure l'ampleur des dégâts provoqués par la tempête Kiran. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Vous avez rencontré ce matin dans le sud Finistère un éleveur de Rosnoin dont l'exploitation laitière a été en partie dévastée par cette tempête Kiran. Il a même perdu des animaux.
Oui, nous sommes dans la ferme de Daniel Guasguen. Sous nos yeux, un chaos de tôles et de planches.
C'est le bâtiment, si vous voulez, qui contenait donc les 30 genisses. Donc certaines ont pu se réfugier là, avec les barrières de contention qu'il y avait pour les tenir dans les cases. Et d'autres, malheureusement, ont été projetées et prises sous les poteaux de l'hangar.
5 bêtes tuées, d'autres qu'il a fallu euthanasier. Quant aux vaches laitières, Daniel n'a pas pu les traire pendant 2 jours. Heureusement, l'électricité est revenue, mais il n'y a toujours pas d'eau.
Les vaches laitières, on est obligé de les sortir pour qu'elles trouvent de l'eau. Vu le nombre qu'il y a, elles vont être obligées de passer tout l'hiver dehors. Puisqu'il n'y a plus de place pour loger autant de bêtes.
Alors les assurances ne rembourseront pas tout, il faudra aussi des aides. Daniel Guasguen est visiblement éprouvé, mais pas question de renoncer.
Nous, on garde la tête haute quand même pour pouvoir continuer, parce que c'est des années de travail qui ont été mises en place pour monter des troupeaux comme ça. Donc on ne veut pas s'en séparer, il faut qu'on prenne le dessus et qu'on continue.
D'autant qu'après lui, son fils Kevin doit reprendre l'exploitation.
Merci Marie-Bénédicte Allaire dans le sud Finistère. Autre région touchée, les Hauts-de-France et notamment le département du Pas-de-Calais qui a subi des inondations. Antoine Decarne, vous êtes à Saint-Étienne-au-Mont, 5000 habitants, ça n'est pas très loin de Boulogne-sur-Mer. Des habitants qui sont en plein nettoyage après avoir vu leur maison envahie par les eaux.
Et maintenant que la décrue de la rivière a eu lieu, que les rues ne sont plus envahies par les eaux, il faut vider les habitations. Dans le caniveau, un long tuyau bleu rejette de la boue. Béatrice est une sinistrée.
En fait, on est en train de vider la cave. Il y avait au moins 1,50 m d'eau, donc on a dû faire appel au service technique. Ils sont là depuis une bonne heure, même une heure et demie. Ah oui, c'était vraiment...
Les meubles, les canapés, les vêtements trempés par les eaux sont sortis à l'extérieur des maisons. Il faut faire l'inventaire.
La cuisine, l'électroménager, tout est foutu. Tout était dans l'eau. Les pompiers passaient en bateau. Nous, on est restés. On a une maison, donc on a un étage, on était à l'étage. Et là, ils annoncent encore des fortes pluies pour cet après-midi et ce soir.
Et cette pluie, elle fait peur, elle démoralise Jean-Claude en plein balayage.
On est découragé. Voir la hauteur d'eau qu'il y a eu, les dégâts qu'il y a, le boulot qui reste à faire.
Quand vous voyez de la pluie,
eh ben on se dit qu'on est en train de faire du travail pour rien. Vu le temps qu'on nous promet, ben on ne sait pas ce que ça va donner.
Une inquiétude qui va persister cet après-midi alors que la vigilance orange pour crue est toujours maintenue dans le Pas-de-Calais.
Rappelons que Kiran a tué 3 personnes en France et fait 47 blessés. Le bilan de cette tempête s'élève à 16 morts partout en Europe. Benjamin Laverne, un mot peut-être sur ces perturbations météorologiques qu'on connaît à répétition.
Bah oui, c'est inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. Si ça peut être encore une alerte ou un électrochoc pour nos pouvoirs publics de s'inquiéter du réchauffement climatique, même s'il est difficile, j'ai l'impression, à cette heure de savoir dans quelle mesure le réchauffement climatique impacte la puissance de cette tempête. Et puis le grignotage des littoraux aussi. Moi, j'ai été souvent en vacances sur la côte atlantique et de savoir quoi, en près de 50 ans, la côte a été grignotée, l'érosion de c'est 25 mètres, je crois, et que là, les dunes continuent à être...
Certains bâtiments, effectivement, sont même tombés sous l'érosion des côtes.
Ouais. Oui, et j'ai l'impression que dans tous les secteurs sont touchés, les particuliers, les agriculteurs, donc oui, c'est inquiétant.
Dans un instant, nous poursuivrons et nous serons avec un Français qui a pu quitter la bande de Gaza. Et puis on balayera toute l'actualité sportive. A tout de suite.
Le journal inattendu.
Benjamin Laverne, Nathalie Renaud.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Benjamin Laverne et Nathalie Renaud.
La suite du journal avec le bilan des victimes françaises au Proche-Orient qui s'est alourdi. 39 de nos compatriotes ont été tués en Israël dans l'attaque du Hamas et 9 sont portés disparus selon les informations qui viennent d'être données par le Quai d'Orsay. Au sud de la bande de Gaza, les évacuations vers l'Égypte se poursuivent. Une cinquantaine de Français supplémentaires devraient pouvoir sortir aujourd'hui selon le gouvernement. Et pendant ce temps, Israël poursuit ses bombardements au nord de l'enclave. 9488 morts au total selon un dernier bilan donné par le Hamas. Dernier bombardement en date, celui qui a visé ce matin une école des Nations Unies. Au moins 12 morts selon le Hamas. Brice Dugeny, bonjour.
Bonjour.
Pour les partenaires internationaux, il semble de plus en plus difficile de soutenir la stratégie israélienne.
Oui, après avoir reconnu une frappe contre une ambulance vendredi, arguant que des combattants du Hamas s'y cachaient, c'est donc une école des Nations Unies qui a été visée sans avertissement. Selon le Hamas, cette frappe a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés. Mais au-delà du bilan, c'est le symbole qui choque. L'ONU se dit terrorisée par cette annonce et les soutiens d'Israël appellent Tel Aviv à la retenue dans sa campagne de bombardement destructrice. Hier, avant même cette frappe sur l'école des Nations Unies, Emmanuel Macron estimait que la lutte contre le terrorisme ne peut pas justifier de sacrifier des civils. Et Anthony Blinken, secrétaire d'État américain en visite en Israël, appelait son allié israélien à la retenue.
Nous devons faire plus pour protéger les civils palestiniens. Il n'y aura pas de partenaires pour bâtir la paix s'ils sont abattus par une crise humanitaire et ont le sentiment que leur sort ne génère que de l'indifférence. Comme plus proche allié, nous conseillons à Israël quant aux moyens de limiter les pertes civiles tout en atteignant les objectifs militaires contre le Hamas et ses infrastructures.
Au fil des jours, le droit d'Israël à se défendre contre le Hamas ne semble plus suffisant aux yeux de ses partenaires pour justifier une stratégie militaire de destruction.
Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron annonce la tenue d'une conférence humanitaire jeudi prochain à Paris. À l'étranger encore, un puissant séisme au Népal, au moins 132 morts, mais ce bilan n'est que provisoire car la région touchée est particulièrement reculée. Le sport, 11e journée de Ligue 1 avec à 17h Lorient-Lens et surtout à 21h le très attendu Marseille-Lille. Premier match au Vélodrome après les violences et le fiasco d'OM-OL la semaine dernière. Par précaution, le déplacement des supporters lillois a été interdit par le ministère de l'Intérieur. Et puis hier soir, le PSG s'est largement imposé face à Montpellier 3-0. Les Parisiens provisoirement premiers du classement. Le foot, ça vous intéresse, Benjamin Laverne ?
Bah, les grands événements, le mondial, l'euro et peut-être les phases finales de la Champions League s'il y a un club français. Voilà, bon, mais pas plus.
Bah, on croise les doigts pour Paris, allez.
Allez.
Un mot de judo pour vous dire que la France brille au championnat d'Europe. 3 titres gagnés dès le premier jour hier. Et puis on surveille aujourd'hui Clarisse Agbenienou, la jeune maman qui brigue un 6e sacre européen. Et puis des bonnes nouvelles de Pierre Arditi. Benjamin Laverne, vous qui êtes un homme de théâtre, vous savez que l'acteur avait été victime d'un malaise sur scène au théâtre Édouard VII il y a quelques semaines. Il va reprendre son rôle dans Le Lapin le 8 novembre. Il est en forme. Écoutez-le au micro d'Isabelle Morini-Bosque.
Ça va très bien, oui. Ça me fait plaisir de retrouver le public. Et...
Ça va. Oh là 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 là. C'est passé, c'est derrière. Ben c'est comme ça, hein, je suis plus un perdreau de l'année. Alors, le côté, je suis tellement irrésistible que je suis infatigable, ben non, c'est pas comme ça, voilà. Je suis moyennement irrésistible et je suis très fatigable. Mais apparemment, ils avaient quasiment annoncé que j'étais mort, quoi. Ce n'est qu'un malaise vagal. Un peu costaud, mais un malaise vagal. Il n'y a même pas d'AVC, donc c'est pas à ce point-là. Voilà, il y a un traitement, il faut faire attention. Je suis plus un galopin, donc il faut quand même que je fasse pas 15 trucs en même temps. Ou, c'est pas grave, ça m'empêche pas de continuer mon métier, bien sûr.
Un petit mot pour Pierre Arditi.
Bah non, mais je lui souhaite le meilleur des rétablissements. Et ça me fait penser au fait que c'est un métier de passion et que beaucoup de comédiennes et de comédiens ont envie de mourir sur scène, apparemment. Il n'y a pas de retraite dans ce métier. Et donc, oui, même Molière est mort sur scène. Donc, comme le patron est mort sur scène, tout le monde veut faire comme lui.
Vous aussi ? On n'en est
non,
pas là.
Mais je
vous
pense
n'avez
que je ferai ce métier le plus tard possible. Et que, en effet, oui, un malaise vagal, j'espère que ça ne m'arrêtera pas. Donc, je suis admiratif de sa résilience, son abnégation, et qu'il continue, et je l'encourage parce que c'est un grand comédien.
Allez, on va parler de vous, Benjamin Laverne. Si des auditeurs ne vous connaissaient pas et que je devais vous présenter, je leur parlerai d'abord de votre silhouette élancée, longiligne, qui se glisse dans de multiples costumes et se déploie depuis plus de 10 ans au théâtre et au cinéma. Sur les planches d'abord, puisque vous avez fait le Conservatoire National d'Art Dramatique, avant d'intégrer la Comédie Française, dont vous êtes sociétaire, sorte de titre de noblesse
bravo.
En matière d'art dramatique en France. Et puis au cinéma, où vous arrivez sur le tard, à 28 ans, et où vous tapez dans l'œil du grand public en incarnant un sacré con. Un marié imbuvable, mais du coup tellement drôle, dans Le Sens de la Fête, d'Éric Toledano et Olivier Nakache.
J'aimerais beaucoup qu'on parle des remerciements.
Ben, je vous écoute.
Très bien. Avant le plat principal, à mon signal, vous allez prendre la parole, et là vous dites... J'aimerais remercier quelqu'un dont l'importance était capitale pour la mise en place et la réussite de cette soirée. Un homme sans qui, ce soir, rien n'aurait été possible.
Ouais.
T'es avec moi ?
Mm-hmm.
Là, vous dites que tout ça, c'est grâce à Pierre.
Il faudra me montrer qui est Pierre, sinon je...
Ouais, c'est moi.
On vous pensait presque abonné au second rôle. 2 fois nommé dans cette catégorie au César en 2020 et 2021. 1 fois au Molière en 2023. Mais désormais, il va falloir compter sur vous dans la catégorie reine. Car vous êtes de tous les plans de l'abbé Pierre, une vie de combat. Vous incarnez le fondateur d'Emmaüs à tous les âges, avec force et conviction.
Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim ? As-tu sommeil ?» Veux-tu te laver ?
Rien, on t'attendait.
Votre performance permet de donner vie à l'abbé Pierre et de porter haut la voix des plus fragiles et des plus démunis. Pour un grand homme, il fallait un grand interprète. Benjamin Laverne. Oui, c'est un petit morceau de piano, Riopi, et ça s'appelle I Love You. Voilà, on parle d'amour quand on parle de l'abbé Pierre, forcément.
Oui, c'est vrai.
Des choses à ajouter à ce portrait ?
Non, c'est assez fidèle. Bravo pour ce travail approfondi. Non, mais c'est toujours. C'est une grande fierté de venir parler de ce personnage. Ouais. C'est un honneur, une responsabilité. Et puis c'est un grand rôle en fait. C'est un grand personnage, mais c'est aussi un grand rôle. C'est un homme qui avait un rapport à la parole, aux mots, et qui était un orateur d'une éloquence extraordinaire. Donc pour un acteur, c'est un cadeau. Et quand en plus c'est au service de valeurs qui me bouleversent, et je pense que c'est très important de faire résonner sa parole aujourd'hui. C'est génial.
Eh bien, de ce grand rôle, on va continuer à parler. C'est dans un instant, dans le journal inattendu.
Inattendu sur RTL, avec Benjamin Laverne et Nathalie Renaud. Le journal inattendu de Benjamin Laverne,
avec Nathalie Renaud sur RTL.
Benjamin Laverne, vous portez le film L'Abbé Pierre, une vie de combat qui sort mercredi au cinéma. On va longuement en parler. Qu'est-ce que ça fait d'abord d'incarner un homme qui a réellement existé?
Alors ça, c'est assez étrange. Parce qu'on se dit, oh là là, il faut pas que j'abîme la statue du commandeur. Et puis c'est un homme qui était très très aimé, très connu, qui était personnalité préférée des Français pendant près de 17 ans, je crois. Qui était très aimé, d'ailleurs, par les citoyens, mais aussi par les pouvoirs publics. Il les embêtait un petit peu. Chaque ministre du logement, c'était un peu le poil à gratter. Mais,
oui, mais les donc, gens
ouais, c'est aussi le mythe, la légende, parfois aussi la figure un peu consensuelle. Donc c'est d'aller gratter derrière. C'était ça. Et ça me plaisait. Ça me rassurait aussi de se dire qu'on allait apprendre des choses aux gens, qu'on allait montrer l'abbé Pierre dans sa jeunesse aussi. Personne ne le connaît. Les gens oublient qu'il a été jeune, qu'il a été au noviciat, 7 ans chez les Capucins, qu'il était sous-officier, mobilisé pendant la guerre, résistant. Et le fait de montrer aussi toute cette partie de sa vie, de montrer d'où vient cet engagement, cette vocation, ça me plaisait beaucoup. Surtout que c'est un jeune homme très très émouvant, très tourmenté. Et ça, c'était tout le projet de Frédéric Tellier, le réalisateur. Mais c'est intimidant, c'est très intimidant. On a l'impression que c'est casse-gueule, qu'on se dit, oh là là, mais je prends un risque. Mais il est tellement inspirant que la peur est vite partie.
Alors, il y avait la peur et puis il y avait la difficulté aussi de l'incarner à tous les âges.
Oui.
Parce que vous l'incarnez de 24, de 25 à 94 ans. Pour ça, il a fallu pas mal de transformations physiques.
À peine. J'ai pas dormi pendant 4 jours pour le jouer à 60 ans. Le pari de la transformation, les Américains font ça très bien. Il faut être bien accompagné au maquillage. La question de la crédibilité, que ce soit pas grotesque, de jusqu'où aller dans le mimétisme, sans être dans l'imitation, qui est un mot un peu péjoratif, et d'être fidèle à sa vibration intérieure. Il avait un monde intérieur immense. Le cœur qu'il mettait, l'engagement, sa compassion, son indignation, tout ça, c'est ça, lui être fidèle aussi.
Et
c'est
sa
vérité.
Vous l'avez beaucoup écouté, vous avez lu ses discours, vous l'avez regardé, vous avez regardé des photographies.
Oui. Ah bah oui, c'était plein de manières de l'approcher. Frédéric Tellier m'a dit, lis ce bouquin et celui-ci, évite les autres, parce que c'est un peu hagiographique, on montre un peu ce qu'on sait déjà de lui. Donc de lire ses journaux intimes, ça m'a beaucoup appris. Sa rencontre avec Lucie Coutaz, ça qui est déterminante, qui est cette femme de l'ombre avec qui il a travaillé pendant plus de 40 ans à ses côtés. J'ai voyagé, j'ai fait un voyage à Assise, qui était un voyage qui l'avait marqué. Adolescent, à 14 ans, il a vu le lever de soleil sur les plaines d'Ombrie en Italie. Il dit que l'essentiel de sa vie s'est décidé à ce moment-là. Donc je me suis offert ce voyage, je me suis levé moi aussi à 5h du mat et j'ai vu le lever de soleil sur Assise.
Ah oui, vous avez vraiment marché dans les traces de l'abbé Pierre pour mieux le comprendre.
J'ai pas eu besoin d'aller à la messe forcément tous les dimanches, mais en tout cas, je suis peut-être un peu plus rentré dans des églises. Mais c'était le plus grand voyage spirituel, c'était d'aller à Assise, parce qu'il était très très fan, on peut dire ça, même de Saint-François, qui était aussi comme lui un bourgeois qui a fait vœu de pauvreté et puis qui s'est occupé des plus miséreux. Et donc, il y a eu plein de manières de se sentir légitime aussi, d'avoir l'impression de le rencontrer et de pouvoir le raconter le mieux possible aux gens.
Et vous avez été guidé, évidemment, par le réalisateur du film, Frédéric Tellier, dont vous parliez, et qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous ce matin dans le journal inattendu. Bonjour Frédéric Tellier.
Bonjour Nathalie, bonjour mon cher Benjamin.
Bonjour Frédéric, c'est vraiment inattendu.
dites-moi, le tournage a duré combien de temps déjà ?
Alors le tournage a duré 3 mois et demi, 4 mois, mais étalé sur 7 mois. On a tourné une grosse partie en hiver, puis on s'est arrêté 3 mois, on a retourné en été, dont certains décors qu'on avait déjà tournés en hiver, et puis on a tourné une petite section à part, qui sont les SDF qu'on va découvrir dans le film.
Donc, 7 mois quasiment de vie commune avec Benjamin Laverne. D'abord, comment est-ce que vous l'avez choisi pour incarner l'abbé Pierre ? Pourquoi lui ?
Pourquoi, Frédéric?
Alors, ces 7 mois de vie commune magnifiques sont loin des 40 ans de vie commune de l'abbé Bussy, donc il nous reste encore quelques années pour nous éprouver. Mais j'ai eu envie de travailler avec Benjamin sur ce film. D'abord parce que j'avais tourné avec lui, on avait tourné ensemble dans mon premier film au cinéma et que je me rappelais de lui, je l'observais. C'est un acteur qui est très montant depuis quelques années, que tout le monde observe. Hein. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le génie de l'observation. Mais... Et puis surtout quand on a commencé à penser vraiment au rôle avec le producteur, on s'est dit l'abbé était un érudit, il maniait extrêmement bien la langue française, c'était un grand orateur. Ça nous a tout de suite orienté vers la comédie française et donc vers Benjamin. On voulait quelqu'un de très à l'aise avec le verbe, avec l'adresse à l'autre. Et c'est vrai que Benjamin remplissait tout ça. Au-delà du fait que je le connaissais et que j'avais énormément de sympathie pour lui, il avait la possibilité d'être l'espace d'un film l'abbé Pierre.
Et justement, on va entendre le célèbre appel de l'hiver 54 lancé par l'abbé Pierre. On va l'entendre dans la voix de Benjamin et dans la voix de l'abbé Pierre.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsé.
Benjamin, je vous vois sourire en écoutant la vraie voix de l'abbé Pierre lancer cet appel.
Oui, parce que moi, j'avais dû travailler cet appel pour le casting. Je devais travailler l'appel de 54 et un discours au Palais des Congrès en 1984, ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. Et donc, il y avait un enregistrement, mais de l'abbé Pierre plus âgé. À 90 ans, il l'avait réenregistré. Et Radio Luxembourg, qui est l'ancêtre d'RTL, avait cette archive. Et puis, elle a été exhumée, je crois, il y a un an. Et donc, de le réentendre, l'abbé Pierre, qui est à peu près mon âge à ce moment-là, une trentaine d'années, j'ai un peu plus, mais c'est très émouvant. Et de voir qu'il, dans sa voix, l'application, l'importance qu'il met dans les mots, l'urgence aussi, mais en restant très calme. Il n'a pas des envolées lyriques. D'ailleurs, vous avez rajouté une petite musique derrière pour qu'on soit à égalité. Et il ne peut pas se douter qu'il va y avoir cette insurrection de la bonté. Et qu'il ne le sache pas, c'est très émouvant, puisque les téléphones vont se mettre à sonner et les Français, le cœur des Français va exploser et ils vont envoyer des couvertures, des liasses de billets. Ça va être un miracle. Ce miracle a eu lieu et on espère toujours qu'il se reproduise.
Frédéric Tellier, avant de vous laisser, une anecdote de tournage que vous voudriez partager avec nous ?
Oh là là, des anecdotes de tournage, on en a plein avec Benjamin. Je dois vous dire que quand on s'est décidé avec Benjamin, ce que j'aimais, moi, au fil du travail avec lui, de la préparation, c'est de découvrir qu'il avait de vraiment de charmant paradoxe. En tous les cas, ça a été mon impression, comme l'abbé. Et on en a eu souvent en tournant. Il y a deux séquences que je trouve absolument bouleversantes dans le film. Moi, c'est l'enterrement de Lucie Coutaz. Et puis son dernier discours, celui du Trocadéro. Et je pense que dans la tête de Benjamin, à ce moment-là, il était dans des paradoxes énormes. Alors, on ne savait pas trop où aller, lui et moi. On est allé dans un espace comme ça, pas encore défriché, on ne savait pas trop où on allait. Et ça a donné deux séquences que je trouve magnifiques du point de vue de son interprétation, en tous les cas. Un grand exemple pour les écoles de théâtre, bah oui, je pense, voyons. Parce que arriver à ce petit stade presque de transe avec son personnage, c'est vraiment un moment du travail que moi j'oublierai jamais, de pas savoir où on allait et on est allé quelque part où le résultat est assez fantastique, je trouve.
Merci beaucoup Frédéric Tellier d'avoir été avec nous et d'encenser ainsi votre acteur.
Ah oui, il est très objectif en plus. Non mais ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a fait un voyage. C'est, on était,
vous
on...
vous êtes senti à un moment donné transporté en fait,
D'avoir 6 heures de maquillage sur le visage, de d'être comme ça dans la peau de cet homme qui a existé et d'être main dans la main avec le réalisateur, avec Emmanuel Berco qui joue Lucie Coutaz, et d'avoir l'impression que nous aussi on est en mission, où on est dans la continuité de l'histoire qu'a créé l'abbé Pierre, de cet héritage, de dire que le cinéma aujourd'hui peut aussi, peut-être à son échelle, un tout petit peu changer les choses, changer le regard sur cette pauvreté qui existe encore, donner de l'espoir, susciter des engagements. Et ben, en fait, on se sentait investi de ça, et voilà, c'était à la mesure de l'importance du sujet.
Alors Benjamin Laverne, vous êtes avec les auditeurs d'RTL. Non, pas du tout. On vous a bien écouté, c'était très intéressant. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30. On va continuer évidemment à parler de la vie de l'abbé Pierre et notamment de son rapport aux femmes et de Lucie Coutaz dans un instant. Mais on parle de vous aussi. Quand on vous a demandé de choisir les musiques de cette émission, vous avez souhaité écouter ce titre. Everywhere.
C'est original, hein, les Beatles.
Pourquoi ? Vous êtes un fan ?
Bah oui. Je crois que c'est le seul groupe au monde dont j'aime tous les morceaux. En général, dans un album, j'aime un, deux titres. Là, j'aime tout. Ça me met des frissons à chaque fois.
C'est, allez.
Voilà, super pouvoir.
Frissons, et on se retrouve pour les titres de 13h.
Benjamin Laverne est l'invité du journal inattendu sur RTL.
RTL, il est 13h01.
Le journal inattendu de Benjamin Laverne.
13h, les titres de l'actualité.
Nathalie Renaud.
Domingos arrive sur l'ouest de la France avec des vents pouvant atteindre 130 km/h. Une nouvelle tempête, 3 jours après Kira, qui a fait d'importants dégâts en Bretagne notamment. 260 000 foyers sont toujours privés d'électricité à l'heure où nous parlons. Au Proche-Orient, malgré les nombreux appels à la trêve, Israël ne veut pas entendre parler de pause humanitaire. Un bombardement aurait fait 12 morts dans une école de l'ONU à Gaza. Il y aurait 15 victimes dans une frappe contre une ambulance, selon le Hamas, qui évoque un bilan total de plus de 9 400 morts. Du football, Lorient lance à 17h et OM Lille à 21h. Premier match au Vélodrome après les violences du week-end dernier. Les supporters lillois sont dépités, ils sont privés de déplacement. Et puis le PSG est provisoirement leader de la Ligue 1 après sa victoire 3-0 face à Montpellier hier soir. Enfin, on souhaite toute la réussite possible à Clarisse Agbenienou qui brigue un 6e titre européen en judo. La météo, c'est une tradition dans le journal inattendu. C'est à vous, Benjamin Laverne, que revient ce soin de nous la donner. C'est à vous.
Météo très instable avec des pluies fréquentes et de fortes rafales de vent à l'approche d'une tempête qui touchera l'ouest du pays en fin d'après-midi. Le département allant de la Loire-Atlantique à la Gironde, seront tout particulièrement concernés avec de grosses vagues sur le littoral et des vents violents près des côtes. Les températures iront de 9 à 20 degrés entre Gap et Bastia. Il fera 12 degrés à Colmar, 13 degrés à Lille et à Lyon, 14 degrés à Paris et 18 à Marseille. À Poitiers, ma ville, il pleuvra cet après-midi. Les vents y seront forts, mais le mercure affichera un doux 15 degrés. Voilà, c'était.
Ben voilà,
j'ai fait ce que j'ai pu.
C'est un nouveau rôle, présentateur météo. Bravo, Benjamin Laverne.
C'est pas mal.
Le journal inattendu de Benjamin Laverne.
Avec Nathalie Renaud sur RTL.
Nous sommes donc toujours avec Benjamin Laverne qui incarne l'abbé Pierre dans le biopic Une vie de combat qui sort mercredi au cinéma. Et comme chaque samedi, Mathias Luguin nous a rejoint. Bonjour Mathias.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Vous êtes allé dans la rue pour savoir ce qu'il restait de l'abbé Pierre aujourd'hui.
À l'épreuve de la pluie francilienne, il faut le dire. Je suis rendu dans un centre commercial donc pour questionner le souvenir de l'abbé Pierre, pour voir ce que l'on en retient aujourd'hui encore. Alors, en sortant du métro, je tombe sur Gérard que je questionne sur le souvenir qu'il a 1954, l'année du fameux appel sur les ondes de Radio Luxembourg, on l'a dit, l'ancêtre de RTL, eh bien, elle a d'ailleurs une résonance particulière pour lui.
C'est mon année de naissance, c'était un monsieur qui s'occupait des autres gens. Pour les jeunes, peut-être pas, mais nous, oui. Parce que les jeunes, maintenant, je ne sais même pas s'ils pensent à leur avenir.
Alors, les jeunes qui ne connaîtraient plus l'abbé Pierre, ah bon, on a voulu vérifier.
Ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu, mais...
Non, enfin, je connais deux noms, mais c'est tout.
Non, peut-être, enfin...
Je sais pas.
Bon, et puis ça coûte rien d'essayer, tiens.
Est-ce que c'est un genre d'auteur ou poète ou un écrivain, un truc comme ça, non ?
Ah, raté. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce souvenir ? Pourquoi les valeurs du saint homme se perdent-elles ? Voici ce que vous en pensez dans la rue.
Ça s'est perdu, oui, effectivement. Il y a moins de personnes, effectivement, qui se consacrent aux autres. C'est l'évolution des mœurs.
Ah, aujourd'hui, ceux qui font des actions pour le bien, etc., c'est des gens qui sont pas forcément très désintéressés.
Tout le monde a perdu cette âme d'aider les autres, je trouve, ouais.
C'est vrai que quand on demande des figures similaires, bienfaitrices, difficile, visiblement, d'aller piocher dans l'actu.
Coluche.
Mère Teresa.
Comme ma sœur, Mère Teresa, c'est la première personne qui me vient à l'esprit, ouais. Oui.
Ou par exemple, les fondateurs de la Croix-Rouge, ou par exemple l'UNICEF, et tout comme ça.
Coluche.
Jésus.
Bon, ça reste assez religieux, il y en a pour tous les goûts. Alors, je vous l'accorde, ça paraît un petit peu fataliste tout ça. Heureusement, il y a encore de l'espoir. Tant mieux, c'est le message que vous véhiculez dans ce film Benjamin, celui de l'abbé après tout. Ce papa compte bien emmener son jeune fils de 8 ans au cinéma.
Ah oui, complètement, oui. Parce que ça montre aussi un exemple de choses intéressantes à faire dans la vie et de modèles à suivre, ou en tout cas d'éléments inspirants.
Alors on espère qu'ils seront nombreux à imiter ce monsieur pour que le souvenir de cette vie de combat, justement, continue d'être transmis.
Et vous, Benjamin Laverne, comment est-ce que vous décririez l'abbé Pierre ?
Bah, quelqu'un qui continue à croire dans la tempête, ouais. On parle de tempête là, Domingos, mais l'abbé Pierre, c'est un phare. C'est quelqu'un qui dit, on a un œil pour le mal, mais aussi un œil pour le bien. C'est l'état d'esprit dans lequel il faut être, sinon on laisse tomber. Puis aujourd'hui, en plus, on a l'impression que c'est la fin du monde, que tout s'écroule, qu'on a toutes les raisons en fait de baisser les bras et d'abandonner. Et lui, il lutte contre la fatalité de la misère. Il se dit, oui, il y aura toujours de la misère, mais si on ne la combat pas, c'est perdu d'avance. Et donc quand il dit, ouais, je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir, c'est une citation de l'abbé Pierre, ça que j'aime beaucoup. Je continuerai à aimer même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix même au milieu d'une guerre. Et donc cette résilience, moi, m'hallucine. Et je trouve que c'est très très inspirant. Et qu'on a besoin en fait d'espoir. Et lui nous le montre parce qu'il a une vie complètement romanesque. Et il nous montre qu'avec cette bande de compagnons et avec Lucie Coutaz, ils ont changé le monde quand même.
C'est pour ça qu'il faut emmener aussi les enfants, ceux qui n'ont pas connu de son vivant l'abbé Pierre, à voir ce film. Merci beaucoup Mathias Luguin pour cette chronique. Vous parliez de Lucie Coutaz. Elle fait partie intégrante de la vie de l'abbé Pierre. C'est aussi ce qu'on découvre dans ce film. Cette femme, il l'a connue alors qu'il était résistant et elle a passé sa vie à ses côtés dans l'ombre et elle est le socle de la fondation Emmaüs.
Ouais, elle est même cofondatrice dans les statuts.
Exactement.
Du mouvement Emmaüs.
Vous connaissiez son existence avant même le film ?
Non. Et je pense que je ne suis pas le seul à ne pas la connaître, alors qu'elle est absolument essentielle à la vie de l'abbé Pierre, au mouvement Emmaüs. Et ils ont eu cette fidélité, ce compagnonnage pendant plus de 40 ans. L'abbé Pierre a demandé à l'Église, aux autorités ecclésiastiques, s'il avait le droit d'habiter avec Lucie Coutaz sous le même toit. Ça a été accepté. Et donc, ils ont été en colocation pendant plus de 40 ans. Ils avaient une admiration commune. Il a vite compris qu'elle lui était essentielle, cette femme, parce qu'elle le cadrait. Je pense qu'elle avait aussi une certaine autorité. Elle avait un cerveau bien fait. Lui, il était un peu éparpillé, assez gaffeur, très spontané, parfois un peu égoïste. Et elle faisait les comptes, elle tenait faisait l'administration. Et oui, on l'appelait même Lulu la Terreur ou la Tour de Contrôle. Mais elle avait aussi énormément de tendresse. Elle était très aimée. Par toutes les communautés, par les compagnons, et elle est connue hein, dans le milieu associatif. Mais c'est fou que qu'elle soit restée si discrète.
Exactement. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'effectivement, on ne la connaisse pas du tout, hein, avant ce film en tout cas. Et ce qui est fou aussi, c'est cette vie ensemble, cette histoire d'amour au final.
Mais c'est une grande histoire d'amour platonique. À ce qui se dit. Je ne vais pas rentrer dans les potins. Mais oui, elle... Ils avaient besoin d'être l'un avec l'autre. C'est une grande histoire d'amour, j'en suis persuadé. Et lui s'en étonnait, se dit, il y a une archive qui est tellement émouvante, où il dit, vous rendez compte, on a passé 40 ans côte à côte et il n'y a pas eu le moindre problème masculin-féminin. C'est extraordinaire, elle avait 15 ans de plus que lui. Et c'est très émouvant, ils sont enterrés côte à côte, vous rendez compte, à Esteville. Et Frédéric Tellier, dans la préparation du film, c'est la première étape de cette préparation. Il nous a emmenés avec Emmanuel Berco à Esteville, en Normandie, dans ce tout petit cimetière de l'église d'Esteville, qui est l'une des dernières demeures de l'abbé Pierre. Et de voir leurs deux noms côte à côte avec celui des premiers compagnons historiques, bah, c'était bouleversant. Et c'est la grande histoire d'amour méconnue d'Emmaüs, enfin de l'abbé.
Je voudrais qu'on finisse cette partie en écoutant celui qui est aujourd'hui le président de la Fondation Emmaüs, Antoine Sueur. Il m'a confié hier d'abord qu'il vous trouvait formidable dans le film.
Antoine.
Mais oui, évidemment. Et que il pense aussi que ce film est nécessaire aujourd'hui. Écoutez-le.
Ah ben, ce que je pense surtout, c'est que notre époque manque d'icônes sociales ou d'icônes prophétiques. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où on a besoin parfois de modèles sociaux, de gens qui voient peut-être un peu plus loin que la moyenne des autres et des décideurs. Et à ce titre-là, c'est bien. Mais là, ça lui donne un côté vivant. Ça n'a pas été que ce vieux monsieur chenu et barbu. C'est aussi quelqu'un qui a mené une vie de combat, comme est le titre du film. Je pense qu'à ce point de vue-là, le film est très intéressant.
D'un mot, est-ce que ce film vous a changé, vous, à titre personnel ?
C'est certain, oui. Moi, ça m'a bouleversé. C'était bon, une grande aventure de tournage, certes, mais ça a été une grande aventure intérieure. Ça ouvre le cœur, ça aide à croire, en fait, c'est aussi ça. Ça encourage, c'est comme une grande inertie de se dire, mais bouge-toi le cul, Benjamin, toi aussi participe à l'effort commun, à cette grande aventure solidaire. Les Français sont, je crois, un des pays les plus, dans le bénévolat, sont très engagés dans le milieu associatif. Et donc aussi de voir tout ce qui se fait, de toutes les initiatives qu'il y a, quand de rencontrer franchement la Fondation Abbé Pierre, de voir leur initiative, d'aller dans les communautés, puisqu'on a été aussi visiter des communautés, c'est très encourageant, ça fait un bien fou. Et donc je suis persuadé que pour les jeunes générations, qui sont parfois un peu en perte de sens, ou on dit un peu désorientés entre le Covid, les guerres, enfin, il y a beaucoup de raisons de baisser les bras et d'aller voir ce film. C'est une grande aventure, c'est un grand film d'aventure aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est un thriller, c'est une épopée. Mais ouais, ça donne énormément foi en l'homme et en sa capacité en fait de se sauver lui-même. Et c'est aussi une clé au bonheur. C'est-à-dire que l'abbé nous dit, nous ne pourrons jamais être réellement heureux que dans le bonheur des autres. Alors ça pourrait être un peu voilà une espèce de quelque chose un peu naïf, un poncif, mais je suis sûr.
Mais ça invite à s'engager.
Oui, à ça je suis sûr. Oui, ça encourage à s'engager et de pas le voir comme quelque chose qui est un poids, une espèce d'obligation. C'est pas que de la charité en fait, c'est donner redonner du sens à sa vie aussi, de pas être que dans ce cloisonnement de notre vie familiale, amicale, mais de nous obliger à être reliés et d'accepter d'être touchés aussi.
On va continuer à parler avec vous et cette fois théâtre, c'est juste après la pause.
Le journal inattendu de Benjamin Laverne
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Benjamin Laverne est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Ça, c'est la musique de Babylone, un film sur le cinéma, sur Hollywood, qui vous émeut, nous avez-vous dit, quand on a préparé cette émission. Mais on ne va pas parler de cinéma dans cette partie, on va parler théâtre, car vous êtes sociétaire de la Comédie Française depuis 2019. J'ai calculé, c'est 1,5 sociétaires par an. Il y en a 540 depuis 1680. Vous êtes le 534e.
Oui, c'est dingue de dire que ça remplit même pas une salle. Enfin, ça dépend laquelle salle. En tout cas, la salle de la Comédie Française.
Bon, c'est un honneur quand même.
Bah oui, c'est dingue. Non, mais Molière était le premier sociétaire, enfin, c'est ce qu'on dit symboliquement. Donc d'être 534 derrière lui, je trouve ça hallucinant et j'ai du mal à le croire.
Et ça veut dire quoi pour le grand public qui nous écoute, être sociétaire de la Comédie Française ?
Bah, c'est d'avoir la chance de défendre et de jouer le répertoire, mais aussi des pièces contemporaines. D'ailleurs, il y a certains spectateurs, enfin en tout cas moins avisés, qui pensent qu'il n'y a que du théâtre en toge au pied de colonne. Il y a même un ami qui m'a dit « Ah, il y a de la comédie à la Comédie Française !» Je me dis « Mais tu te fous de moi, évidemment !» On y joue tous les genres, toutes les langues, tous les auteurs, tous les poètes. Et donc c'est cette mission, ouais, cette mission qu'on a et c'est une joie, un honneur. Et puis on dit que c'est aussi tous les corps de métier sont poussés à un niveau d'excellence. Donc ça oblige. Ouais, on se dit, oulala, il y a une troupe très forte, il faut être au niveau.
Et puis alors au cinéma, ça permet d'avoir votre nom au générique avec Benjamin Laverne de la Comédie Française.
Cette petite coquetterie.
Ouais.
Alors c'est pas moi qui l'impose. Hein. Je tiens à le dire, c'est dans les statuts, c'est dans les contrats. C'est comme si la troupe prêtait ses comédiens.
D'accord.
Et comme ils ont envie de les retrouver, ils leur mettent cette petite
on
bague.
On signale bien qu'il est à nous.
Voilà, c'est de la Comédie Française, donc il faut qu'ils nous reviennent, il faut pas qu'ils s'échappent.
En tout cas, c'est vrai que quand on est spectateur, ça dit quelque chose. On se dit, ouais, lui, il est vraiment fort, quoi.
Oui, alors...
non, c'est pas ça.
J'en rigole parce que je me dis, mon Dieu, il faut être à la hauteur du titre. Mais oui, alors, le cinéma, il y a toujours une histoire d'amour entre le cinéma et la troupe. Depuis Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Marina Hans, qui est Denis Podalydès. Donc il y a cette histoire entre le cinéma et la troupe. Parfois il y a un désamour, parfois on n'a plus le droit d'aller d'avoir tourné.
Ah, on vous interdit des fois la comédie française, vous dites.
Il y a eu depuis Muriel Mayette, voilà, c'est quelque chose qui s'est autorisé à nouveau à circuler. Parce que Gisèle Cazadesus, par exemple, qui a passé plus de 50 ans dans la troupe, elle me racontait, quand j'ai eu la chance de la rencontrer, qu'elle n'avait pas le droit d'aller tourner au cinéma.
D'accord.
Et voilà, on a eu le droit à nouveau. Et je pense que c'est pour le mieux. Comme ça, on est heureux de partir, heureux de revenir. Et puis c'est très important, je pense, pour ce métier, les bienfaits du cinéma, le rapport au jeu au cinéma, ce jeu naturel, souvent plus naturaliste, nourrit le jeu théâtral et inversement, la technique du théâtre nourrit le cinéma. Ça, j'en suis persuadé.
Vous, le cinéma, vous y êtes arrivé finalement assez tard, à l'âge de 28 ans, c'est ça, hein, les premiers rôles ?
Oui, exactement. Et mon premier rôle, c'est en sortant du Conservatoire National de Paris, Radio Star, en 2011. Ouais. Donc oui, en fait, il n'y a pas de règle. 28 ans, oui, ça peut être un peu tard. Mais c'était le bon moment pour moi. J'ai eu la chance de faire quelques téléfilms avant. Et oui, c'est des circuits parallèles. Hein. Parfois, on a l'impression que le train passe et il faut vraiment faut monter au bon moment.
Et justement, du coup, la notoriété, vous ne l'avez pas forcément encore tout à fait auprès du très grand public. J'entends, bien sûr, on vous connaît, Benjamin Laverne, mais est-ce que pour vous, c'est un regret ou est-ce que finalement, c'est une grande liberté ?
Oh là là, non, pas du tout. Les choses, en tout cas pour moi, se sont faites dans l'ordre, j'ai l'impression. J'ai fait 7 ans d'école. J'ai adoré cette formation, la pédagogie, le groupe, la troupe. D'ailleurs, je suis encore dans une troupe, donc ça, c'est que j'aime ça, l'aventure de troupe, de groupe, que je retrouve aussi au cinéma, dans le travail d'équipe. Donc la question de la notoriété, ça vient tout petit à petit. On m'embête pas dans la rue, on me sourit. Donc, je pense que je sais pas d'avoir une notoriété.
Et vous êtes apaisé avec ça ?
Je suis très apaisé, Nathalie. Voilà. Je suis prêt. Je suis prêt à affronter les hordes de fans. Non, pas du tout. Je suis très tranquille. Et tant mieux.
Est-ce que vous êtes prêt à écouter un morceau de musique ?
Toujours.
Allez, c'est parti. Vous savez ce que c'est ?
Je crois que je reconnais. Quoi ? Quarto Mundo.
Ça s'appelle Sirocco. Quarto Mundo.
C'est mon frère, Thomas Laverne. C'est son nouveau projet musical.
Eh bien justement.
Ils sont deux. Et non, je suis très 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 fan du travail de mon frère Thomas.
Alors on va parler de votre frère, on va parler de votre rapport à la famille, à l'enfance. C'est dans un instant, dans le journal inattendu.
Le journal inattendu sur RTL, avec Benjamin Laverne et Nathalie Renoux. Le journal inattendu de Benjamin Laverne avec Nathalie Renoux sur RTL.
Juste avant la pause, on a écouté un morceau de votre frère Thomas. Mais d'où vient cette envie de jouer au théâtre, de jouer de la musique ? Vous êtes une famille d'artistes en fait.
Eh ben oui, les quatre enfants, on est tombés dedans là. On ne sait pas d'où ça vient. Si ma mère, elle a cette fibre artistique puisqu'elle peint, elle sculpte et elle faisait un petit peu de piano. Mais bon, on n'a pas été obligés. Et mon frère, il s'est mis en premier, mon frère aîné, Thomas. Donc on l'a suivi. Donc il y a deux musiciens, une danseuse qui est comédienne aussi. Et voilà, il y a une troupe. Il y a une troupe, encore.
C'est parfait. On va vous retrouver tous ensemble sur scène un jour.
À la maison. Voilà.
Petit quiz. Qui a dit de vous « Je n'ai jamais vu un acteur aussi doué » ? Oh, bah, vous le savez.
Je crois savoir. C'est Johnny.
Johnny qui ?
Johnny Depp.
Mais oui.
Il l'a dit, je ne l'ai pas forcé.
C'est vrai.
Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Peut-être qu'il n'était pas dans son état normal.
Bah non, visiblement, il avait de la suite dans les idées.
Je n'ai jamais vu un acteur aussi doué. Je pense qu'il est très bon en promo. C'est surtout ça.
Mais vous ne voulez pas être flatté, c'est bien. Vous gardez la tête froide. Voilà. N'empêche.
Aidez-moi, sinon je vais péter un plomb. Là.
N'empêche qu'il vous a engagé sur son film Maudit, un biopic sur Modigliani. Ah non ?
Ah oui, c'est plus d'actualité. Il y a eu un problème de planning avec Al Pacino. Je ne pensais pas pouvoir dire ça dans ma vie une fois. Mais Al n'était plus disponible à mes dates. Et ils ont tranché à sa faveur.
En faveur d'Al Pacino ? Je comprends
non,
pas.
Non, en faveur d'Al Pacino. Oui, c'était Al Pacino ou moi.
Donc ils ont préféré Al Pacino.
Oui, parce que nos plannings ne s'alignaient pas.
Je trouve ça inadmissible.
C'est pas un sketch, hein. C'est pas une blague. Donc en fait, ça n'aura pas lieu. Voilà, pendant un mois et demi, on a travaillé sur le planning et au dernier moment, c'était plus possible. Donc ils ont décidé de garder Al Pacino.
Eh ben, ils vont le regretter. Une question encore. Est-ce que l'abbé Pierre, c'est un rôle à César?
Alors ça, c'est ce qu'on me dit, mais je m'en méfie énormément parce que les Césars nous réservent toujours beaucoup de surprises. Et ce qui est drôle, c'est que c'est quand je montrais les photos des premiers essais maquillage qui sont très bluffants. Vraiment, si vous aimez les transformations, allez voir l'abbé Pierre parce que c'est rarement réussi. Et là, même moi, quand j'étais face à mon miroir en pleine préparation, j'étais troublé, j'avais l'impression de le voir.
Ne digressez pas. Voilà. Est-ce que c'est un rôle digression à César?
Oui, bien sûr. Mais c'est souvent le maquillage qui décide ça. Donc, comme le maquillage est bien fait, c'est César, obligatoire.
Vous y pensez en vous rasant le matin?
Absolument pas. Oui, j'y pense. Pas. J'y pense ou pas? Je ne sais pas. Non.
Vous ne vous rasez pas, vous avez la barbe.
Je ne me rase pas. Donc je ne peux pas y penser.
Bon, comme chaque samedi, je vais vous inviter maintenant à partir en mer.
Prenez le large
avec le journal inattendu sur RTL.
Comme chaque semaine, on suit le bateau Triana qui a remporté dans sa catégorie la première étape de l'Ocean Globe Race au Cap en Afrique du Sud. C'était il y a une semaine. Comment ça s'est passé l'arrivée, Jean d'Arthuis, après 50 jours en mer? Est-ce qu'on a le mal de terre?
Ben, vous ne croyez pas ce qu'il vient de dire parce qu'en en fait, on ne se rend pas compte de ce que c'est, mais 50 jours sans marcher, tout le monde a beaucoup perdu de muscles des jambes et donc le retour à terre donne des impressions de tangage permanent, donc c'est vrai que c'est une impression très curieuse d'arriver à terre. Mais enfin, c'était quand même une grande joie, et puis petit à petit, on se réhabitue, ça c'est le propre de l'homme, mais on se réhabitue aux bonnes choses assez vite, donc on a petit à petit remangé de la viande saignante et des poissons délicieux de Cape Town, et c'est vrai que ça nous change des lyophilisés qui est quand même assez pénible pendant 50 jours. Donc on a repris toutes les bonnes habitudes de la Terre avant de repartir pour l'océan Indien.
Alors cette semaine à terre vous a quand même permis aussi de réparer le bateau, de tout réviser.
Oui, absolument. Il y a eu un soin intense du bateau et un soin intense de l'équipage. Le bateau est fin prêt, on a fait réviser les voiles, on a nettoyé la coque qui était pleine de petits mollusques. Quelques changements dans l'équipage, donc on part plein d'espoir et d'optimisme pour cette deuxième étape vers Auckland.
Alors maintenant que vous connaissez la grande difficulté d'une étape de 50 jours, de la cohabitation à bord, est-ce que vous avez vraiment envie de repartir ?
Bonne question. Oui, la réponse est oui, parce qu'on est quand même pris dans une course, et quand on... Vous entendez les sirènes dans le port de Cape Town, et quand on a tous les 15 bateaux mythiques, on se remet petit à petit dans la course et finalement on a envie d'y retourner.
Quelles leçons vous tirez de la première partie, notamment en matière d'alimentation ?
Pour vous dire, moi j'ai perdu 10 kilos. En fait, on tire tellement sur le corps et on pompe tellement d'énergie qu'on se rend pas compte qu'on s'affaiblit. Donc s'il y a 4 étapes à 10 kilos l'étape, vous voyez qu'il reste pas grand-chose à l'arrivée. On a fait très attention à renforcer effectivement tout ce qui est nourriture et à côté pour être bien solide et bien d'attaque.
Allez, bon vent et bonne deuxième étape, Jean.
Merci, à bientôt. On vous rappelle toutes les semaines pour faire un point avec une grande joie avec vous.
Le journal inattendu prend le large.
Merci infiniment Benjamin Laverne d'avoir passé cette heure sur RTL à mes côtés dans le journal inattendu.
Merci à vous. Merci.
Vous êtes un formidable abbé Pierre dans le film Une vie de combat de Frédéric Tellier. Allez-y, courez-y en famille pour que les plus jeunes découvrent l'engagement de l'abbé Pierre. C'est mercredi prochain au cinéma. Dans un instant, Laurent Deutsch, entrée dans l'histoire avec un autre grand homme, Georges Clemenceau. Et je vous retrouve samedi prochain avec Vincent Dedienne, invité du journal inattendu. Très bon après-midi sur RTL. Merci Benjamin Laverne.
Merci.